Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Salut à tous, on approche de la fin de l'été et le Super Moscato Show est toujours là. Il sera là lundi en direct avec toute l'équipe et Adrien.
Salut, tout le monde est là, on a fait l'appel normalement. Ils sont tous là lundi, toute la semaine prochaine, en direct.
Ah c'est reparti, 15h-18h. La Ligue 1, bientôt le top 14, tout ça, c'est
20e
génial.
20e saison du Super Moscato Show qui débute et on vous réserve plein de surprises pour la rentrée, pour toute la saison même, pour fêter la 20e saison.
Il y aura des invités exceptionnels, alors sachant qu'on a déjà eu des invités comme Tyson par exemple.
Holyfield,
quels seront les invités exceptionnels? Ce seront des stars du sport français.
On a eu Trump aussi l'année dernière.
Trump, oui. Quel est le meilleur invité, Trump ou Tyson?
Non, Tyson.
Tyson quand même une émission
sport,
hein.
Sport, bien sûr.
Alors, au programme aujourd'hui, on va revenir sur la dynastie du Stade Toulousain. Ensuite, la finale du top 14, oui. Ouais. Est-ce que Montpellier peut avoir des regrets? Et bien sûr du foot, alors on choisit entre Marquinhos et Mbappé aussi, qui a le plus marqué l'histoire du PSG. Et puis on parlera un peu de Tony Parker, nouveau coach de l'ASVEL.
Allez, vos rubriques préférées, 15h45, le journal moyen première édition. Je vous avais fait passer le bac français, les véritables épreuves du bac
facile,
français
hein.
Et Stephen Brun nous avait bluffé.
Il a eu son bac du coup à 45
voilà.
ans.
Et 16h45, la deuxième édition avec Gilbert Bribois, qui avait quelques petits problèmes pour établir le classement de la phase de groupe en Ligue des Champions.
C'est pas possible ça.
Et 17h45, un Kikadi bio. Oui, souvenez-vous, on a fait un Kikadi. Une semaine de Kikadi sans triche, sans téléphone.
Donc on est obligé de le réclamer.
Sans aucune note, sans aucun stylo. Et c'était pas mal, c'était sympa.
Allez, pour démarrer, un débat d'avant-finale de Top 14. Si jamais Toulouse remporte un quatrième titre consécutif, est-ce que ce sera la plus grande équipe de l'histoire du championnat de France?
Ils ont emmené l'Amérique sur la Lune.
Ils m'ont battu tous leurs records de vitesse, de haute intensité, etc.
Ils l'ont fait redescendre sans encombre.
Nous, ça nous impressionne. À quelle vitesse ça nous avance?
Ils ont montré au monde ce dont une équipe est capable.
Mais la question à se poser, c'est pourquoi ces équipes jouent en équipe?
Ce sont les ingénieurs du centre de contrôle de mission de la NASA.
Et Dupont, il a été
bon, non,
stratosphérique.
Qui perpétue le rêve de la conquête spatiale.
Je sais pas, je dois être né passeur. C'est vrai que j'aime bien passer.
Une chose est sûre, quels que soient les futurs programmes spatiaux américains,
I don't like the chocolate, not chocolate.
Because we are so little and small.
Les hommes et les femmes du centre de contrôle de mission ouvriront toujours la marche.
Qui a le plus gros boulard?
Je serai vraiment apaisé lorsque les gens qui m'ont fait souffrir souffrent à leur tour.
Un tiers vaut mieux que deux.
Oui, tout
est bon là.
Moscato, il va te le régler le problème.
Alors, le Stade Toulousain en quête d'un quatrième bouclier de Brennus consécutif. Ce que seul le Stade Toulousain, déjà de 94 à 97, et le Stade Bordelais de 1904 à 1907 ont fait. Mais il y a d'autres grandes dominations de clubs dans cette histoire du championnat de France. S'ils le font, deviendront-ils la meilleure équipe de l'histoire? Voilà, de la compétition. Vincent règle le problème. La question est simple. La régler, c'est plus difficile. Alors, on va rentrer dans le détail avec Wilfried Templier. Bonjour Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut.
Alors, le dernier.
Quelles sont les plus grandes dynasties du rugby français?
Alors tu les as cités, c'est très loin de nous, hein, le Stade Bordelais, leur record de 4 titres de suite. Il y avait le Stade Français avant eux aussi, hein, 5 titres en 6 ans, c'est encore plus vieux. Bon, après on vient quand même aux lourdes des années 50, 6 titres en 8 saisons, puisqu'on a appelé le Grand Béziers. Et quand même, faut se rendre compte, 10 boucliers de Brennus en 14 éditions entre 1971 et 1984. Et ensuite donc le Stade Toulousain des années 90 a pris le relais avec sa génération Delo, Ntamack, Émile évidemment, et Thomas Castagnède, qui a non seulement fait 4 titres de suite, la plus grande série, mais en plus a ajouté un doublé championnat Coupe d'Europe en 96. Et enfin, le Toulon de Johnny Wilkinson. Par contre, c'est 3 titres européens consécutifs, hein, 2013, 2014 et 2015, et un bouclier au milieu pour un doublé en 2014.
Alors ça, c'est pour les palmarès. Après, si on revient à notre finale de samedi, on sait que quand même pour l'équipe d'Hugo Mola, la course au record, c'est une énorme motivation.
Oui, pour certains de ces joueurs depuis 2019, ils ont déjà 5 boucliers, 2 Coupes d'Europe au palmarès, mais il y a aussi des chiffres à faire tomber, des anciens à faire tomber comme Casalbou, Poitronneau et Bouillou qui sont dans le staff avec eux, des anciens à dépasser. Donc il y a un an, juste après le match du triplé, après la finale face à l'UBB dans les couloirs du Stade de France, le troisième ligne François Cross disait ça.
C'est sûr que déjà des triplés c'est très rare, c'était un levier en niveau de motivation, mais en effet il y a eu mieux au club, donc on a une génération qui est ambitieuse et qui voit grand.
Ce quadruplé réalisé par leurs aînés à la rentrée, dès la rentrée lors d'une interview donnée à RMC Sport, Romain Ntamack l'évoquait lui aussi.
Évidemment qu'on en a parlé comme ça, on en a discuté parce que évidemment que c'est pas neutre. Évidemment que si on gagnait ce triplé, on savait très bien qu'on allait être titillé sur le coin de replay. Mais là, on en rigole, on se taquine avec les joueurs et les anciens qui étaient de cette génération-là. Mais on espère évidemment atteindre ce que eux ont réalisé. Évidemment que c'est l'objectif.
On se taquine, mais c'est l'objectif. Vous l'avez entendu quand même. Et je vais même vous dire s'ils peuvent le faire tomber, c'est-à-dire être champion cette année et l'année prochaine pour clore le débat. Ils vont tout tenter, poussés en plus par leur manager Hugo Mola, qui au printemps, les inciter à aller chercher les records. Écoutez.
Oui, je pense qu'il en manque. Je pense qu'il en manque et heureusement qu'il en manque. Enfin, je veux dire, si nous, ça ne nous nourrit pas le fait d'en manquer, qui va le faire à notre place ? Saisir l'opportunité qui se présente à toi pour marquer ton sport, ton club, ta génération, ben ça se reproduit pas tant de fois.
Voilà, les Piranhas toulousains se nourrissent de cette façon, en repoussant les limites.
Parfait. Après, consécutif ou pas consécutif, ça compte, mais il y a des séries comme celle de Béziers où il n'y a plus, de deux titres consécutifs. Hein, donc,
moi, je pense
tout
que
ça est ça sujet à discussion. Vincent.
Ça ne se reverra plus, le Grand Béziers avec les Armand Vaquerin et Jean-Louis Martin, Paco, tout, des mecs comme Estève qui est mort il n'y a pas très longtemps, Armand Vaquerin qui est pour tout ce monde. C'était pour nous des joueurs emblématiques. Rien qu'entendre leur nom, on en frissonnait. Ils étaient tous barbus. D'une violence pour l'époque inégalée. C'était quelque chose. Devant, c'était une machine. Il jouait debout, il jouait avec des passes, avec des piliers dynamiques. Derrière, il y avait Henri Mioche. T'avais Astre, un génie à la mêlée. Dix fois champion de France. Armand Vaquerin, champion de France, pilier gauche. À 19 ans, pilier gauche, quand tu sais, alors ça allait beaucoup moins vite, c'est un jeu qui était plus stéréotypé, ça allait beaucoup moins vite, mais quand tu sais que, quand même, ça castagnait dur, fallait mettre des rétros, quand même, parce que
ça. En 10 titres,
c'est Armand, c'est là, rappelez-vous, cette finale contre, quand il tue, c'est une façon de parler, Herrero, le deuxième ligne, il lui enfonce la cage thoracique, André, qui est mort il n'y a pas très longtemps, quand tu vois André, qui était quand même un drôle de guerrier, la famille Herrero aussi avait quand même quelques clients assez féroces. Donc ouais, ces 10 titres là, je vois pas comment un club peut les égaler. Après ce que fait le Stade Toulousain, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils vont peut-être battre le record des années 90 de 4 titres d'affilée, mais quand même, c'est incroyable. Ce club est un club incroyable.
Si Toulouse fait 5 titres d'affilée, ce qui n'a jamais été fait, c'est pas plus fort que Béziers.
Non, 10, tu te rends compte de la différence.
10 en 14 ans.
Tu te rends compte en 14 ans. Ouais. Ça veut dire que sur 15 ans, tu t'es loupé 4 fois. Mais tu te rends compte,
c'est pas ça.
Pirou, 10 titres.
C'est même pas ça, Pierrot, au contraire. Moi, je trouve que quand tu gagnes tout le temps sans discontinuer, tu peux aussi dire que l'adversité est moyenne. Quand tu te fais taper tous les deux ans, mais que tu en gagnes 10, ça veut dire que malgré tout, il y avait du lourd.
Tu
reviens à chaque fois. Donc, je sais pas, c'est plutôt l'inverse pour moi.
Plutôt la durée, quoi.
La domination, 14 ans, c'est énorme.
Les titres européens, bon, qui n'existaient pas à l'époque de Béziers, évidemment, mais ça fait des titres.
Non, mais
plus,
que le rugby ait changé. Après, c'était le meilleur de leur moment. Point. Après, c'est l'important, c'est d'être le meilleur de ton moment. Après, parce que dans 30 ans, on dira que la valeur de ces 4 titres ou 5 titres ne valait rien parce que le rugby était moindre. Oui, mais on peut faire ça dans tous les sports. Être le meilleur du moment, c'est ce qui importe dans le sport. Voilà.
Denis, écoute, moi je pense que c'est une équipe qui n'a pas de limite aujourd'hui. Donc la meilleure de génération, je ne pense pas encore. Elle n'a pas rattrapé peut-être le Grand Béziers, mais s'ils gagnent le quatrième cette année, je crois qu'il n'y a pas de limite pour cette génération parce qu'ils sont encore longtemps ensemble.
Ils ont 28 ans de moyenne d'âge.
Ça veut dire qu'ils peuvent l'en gagner.
Pas si longtemps.
Deux ou trois ou quatre dans les 5 prochaines années. Là, ça serait monstrueux. Et puis, alors. Oui, c'est vrai qu'Éric a raison de dire sur la durée, c'est compliqué mais en même temps, je pense que l'opposition était moindre. Je pense quand même que la concurrence était moindre.
On peut pas le savoir.
On a l'impression.
C'est la
limite de l'exercice.
Débat. Et le Stade Toulousain était là. Non, on peut pas le savoir. Je pense que cette année, qu'est-ce que dans 10 ans ils vont dire il y avait que dalle. Ils ont battu en demi-finale 70 points. Il y avait rien. Et s'ils remettent une casquette
La Rochelle dans cette période, La Rochelle par exemple a fait 3 finales de Coupe d'Europe. Donc tu sais que t'as un client. Dans cette période, l'UBB a gagné la Champions Cup. Donc t'es obligé de te dire qu'il y a
Oui, d'accord. Mais attention, les gars, les titres. Oui, mais on s'aperçoit que toutes ces équipes équipes ont du mal à gagner le Brennus, hein, quand même. Tu peux me le raconter comme tu veux.
Non, mais, oui,
à part Toulon, qui a gagné trois fois et qui a gagné le Brennus, les autres trapinettent au niveau du Brennus.
Oui, mais
parlons que des équipes du Brennus. Quand il faut gagner le Brennus, Toulouse, il gagne tout le temps, les autres ne gagnent pas.
Oui, mais justement, ils roulent dessus.
Dans 10 ans, dans 20 ans, il y a un problème de concurrence. Ben, je ne suis pas sûr que le Agen était une extraordinaire équipe. Tu avais Narbonne qui était des extraordinaires équipes pour l'époque, bien entendu. Mais c'est Agen, c'est le Toulon, c'est le La Rochelle il y a 40 ans, c'est le même niveau. Quoi.
Eric Dimeco.
Ben, je ne sais pas, Denis, tu
as. Non, moi je voulais juste finir sur la qualité. C'est toujours difficile de comparer la qualité des groupes. C'est vrai qu'il y avait des monstres à Béziers, mais là je trouve que. Je sais pas pourquoi, c'est pas parce que je suis toulousain, que j'ai joué à Toulouse, mais je trouve que cette génération, pour moi, fait partie des plus belles générations.
En termes de talent?
En termes de talent qu'il j'ai jamais eu.
Ça t'impressionne plus que Toulon, à l'époque de Bernard?
Ben, oui, parce que avec le meilleur joueur du monde qui est Antoine Dupont, avec Romain Tamac.
Wilkinson, le meilleur joueur du monde aussi.
Oui, mais tu regardes. On peut comparer, mais c'est toujours difficile de comparer. Mais moi, je trouve que Toulouse, aujourd'hui, ils ont
il y a deux façons de comparer. Il y a les performances pure, bon ça c'est très difficile effectivement, mais on peut s'y amuser parce que c'est toujours très kiffant quand tu aimes le sport. Et après il y a aussi les palmarès, c'est-à-dire la trace que tu laisses dans l'histoire, et ça on peut le faire aussi. C'est-à-dire, est-ce que demain s'ils sont champions de France, ils effacent la génération de Califano, Castagnède, est-ce qu'ils
effacent? Ça fera 6 boucliers pour cette génération, fera 4 de suite, mais 6 en tout.
Oui, ils vont les rattraper, mais ils vont pas les dépasser.
T'es sûr de ça?
Quand même.
Wilfried, t'en penses quoi? Juste sur Toulouse,
ils sont capables de se nourrissent de ça. Et
non, mais juste sur les deux leviers de motivation,
sur les deux époques, ils te demandent.
Sur le Toulouse 90, c'est le Toulouse d'aujourd'hui. S'ils gagnent samedi, est-ce qu'ils passent devant?
Ah bah ouais, ils ont deux coupes d'Europe en plus.
Ouais. Éric Dimeco.
Alors moi, je disais, l'exercice est toujours un peu périlleux, et c'est surtout que le moment que l'on vit, généralement, on le met au-dessus de ce qui s'est passé, et où on se souvient plus de ce qui s'est passé, où on a oublié. Et Vincent a raison de dire que dans 20 ans, il y aura une équipe qui va gagner 4 fois et on dira ouh, c'est la plus grande de toute. Ça c'est l'histoire de la vie. Donc on est obligé, et surtout on se souvient plus de l'adversité. Là, on minimise l'adversité de Béziers.
Oui.
Mais moi, je suis désolé. À l'époque, il y avait des grandes équipes aussi, qui venaient prendre un bouclier de temps en temps à Béziers. Donc, ça veut dire qu'ils étaient forts. Voilà. Donc, moi, je pense que cette équipe-là, pour le moment, parce qu'elle est amenée encore à gagner. Là, le problème, c'est que on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, le Toulouse d'aujourd'hui. Le Toulouse d'aujourd'hui, ils peuvent en enchaîner encore, je ne sais pas combien,
3, 4.
Voilà. Et donc là, d'un coup, il n'y aura plus de débat, parce que s'ils font, je ne sais pas combien de titres d'affilée, ils auront tué le débat, parce que le débat, on ne peut le faire que sur les stats, entre guillemets. Voilà. Donc, s'ils le font d'affilée pendant je ne sais pas combien de
c'est ce que je dis, ils n'ont pas de limite.
Voilà. Donc là, pour le moment.
On peut pas dire.
Pour le moment, non. Mais par contre, vu qu'ils sont pleins dans le momentum, comme dirait Vincent, ils peuvent y arriver. Et j'ai vraiment l'impression, puisque c'est Denis qui le disait tout à l'heure, ou Wilfried, ou peut-être même Hugo Mola dans une interview, ils se nourrissent de ça. Les mecs ont envie de marquer l'histoire au niveau statistique. Donc ça veut dire que ça va être dur de leur casser la gueule.
Chercher des défis en fait.
Sur le niveau.
Moi, je pense qu'ils sont supérieurs aux années 90, individuellement, tu vois.
Mais aujourd'hui, il y a quand même une préparation différente.
En parlant de talent. Parce qu'automatiquement, la préparation physique n'est plus la même. Donc, je pense qu'ils ont plus de talent maintenant. Par contre, je ne suis pas persuadé, avec le Toulon, qui est champion d'Europe. Parce que les Guitaud, les Wilkinson, les Bastaro, devant les Pota et tout ça, le Eman, un pilier, tu regardes à tous les postes, le numéro 8, l'Argentin, tout ça, je ne suis pas persuadé par rapport à eux qu'ils fassent.
Et paradoxalement, Vincent, ils ont eu du mal à le gagner, le Brennus. Hein. Ils perdent deux fois
en finale. Ils l'ont gagné.
Ils prennent des éclats en finale.
C'est le seul avec un gros championnat anglais. Attention, où la Coupe d'Europe était peut-être aussi dure que le championnat. Avec les Saracens, avec des grosses équipes anglaises, avant que le championnat.
Le problème, c'est que
c'est des joueurs qui sont venus, mais qui n'ont pas duré longtemps. ans, en fait. Sur 4-5 ans. C'est...
Ah, bah quand même, oui.
Oui, mais
ah,
ouais,
3 ans, c'est pas une éternité.
Après, les Toulouse,
leur carrière,
les Toulouse, voilà. Qui se sont arrêtés.
Mais
non,
mais vous, le problème.
Derrière, ça s'est effondré, je suis désolé. Et après, à Toulouse, ça reste toujours au même niveau.
Toulouse, ça fait 7 ans.
Et oui, ça reste toujours au même niveau. Et puis, il y a le problème. Ils régénèrent de la façon que les jeunes arrivent et tout d'un coup prennent la place aux autres. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que tu sais, on ne connaît pas aujourd'hui ses limites. C'est tellement impressionnant après, ce qu'ils réalisent.
Eric.
Après, dans le jeu des comparaisons, vous, il y a un gros problème, c'est que votre Coupe d'Europe, à un moment donné, elle n'existait pas. Ah ouais. Quand elle a existé, elle était en bois. Après, elle a été très forte et maintenant, elle est en bois.
C'est pas la référence stable.
C'est-à-dire que c'est pour ça que tu peux prendre en compte la Coupe d'Europe et c'est bien de la prendre, mais malheureusement, tu es obligé de te baser sur le Brennus, quoi, parce que oui, c'est tellement important d'aller chez vous.
Là, elle est tellement dure. Là, elle est faiblarde, la Coupe d'Europe, quand même.
Elle n'est pas complètement en bois, quand même. C'est vous allez faire faire des bons bandolés,
Mais déjà, tu as les 8 meilleures équipes françaises. Donc, c'est quand même.
C'est que les Français qui les gagnent, c'est qu'il y a un problème à un moment donné.
Oui, d'accord, mais les Français, il faut les battre aussi.
Oui,
tu vois.
Non, bien sûr.
L'UBB a marché sur Toulouse pour être champion d'Europe. Donc, c'est quand même que ça vaut quelque chose quand tu as éliminé Toulouse. T'élimines la meilleure équipe du monde. Donc,
ça veut dire que c'est pas la meilleure équipe, du coup.
Mais non, mais vous parlez, cette Coupe d'Europe, elle est très belle,
c'est le niveau quand tu battes Toulouse.
De attaquer, parce que moi, j'ai trouvé très belle.
Non, mais on dit pas qu'elle est pas belle.
Non, mais c'est dur, dans 7 ans,
ça vaut pas de cacahuètes. Il y a quelques années, peut-être.
Non, ça vaut pas de cacahuètes avec l'équipe du Blondinet. Avec l'équipe du Blondinet, ils ont pris 40 points sans bouc canal. Arrêtez aussi de vous faire payer. Non, mais c'est pas possible de dire qu'elle est bonne. C'est pas des bons niveaux. Écoute-moi, rappelle-toi.
Mais parce que t'es obligé.
Rappelle-toi l'équipe avec les Saracens, avec toutes ces équipes, avec Gloucester, avec tout ça. C'est quand même, il y avait un gros champion anglais, il était supérieur au nôtre.
Ça, c'est vrai.
Oh merde.
Mais non, mais Vincent. Mais
d'ailleurs,
le problème.
Il y avait Saint Gentil, mais là, tu veux devenir tricot.
Le problème, quoi qu'il arrive, quand on te dit.
Et j'aurais pas à me forcer.
Pour la gagner, il faut sortir Toulouse, ça veut dire que c'est très dur, en fait. Voilà, c'est l'argument ultime. Pour la gagner, la Champions Cup, il faut battre Toulouse, si t'es pas Toulouse. Donc, c'est monstrueux.
Pour notre
c'est
débat,
la demi-finale. Oui, mais avant, il fallait battre les Anglais, les Français.
Je pense que pour le débat, il faut en sortir la Coupe d'Europe. Il faut rester sur le Brennus. C'est beaucoup plus.
Non, mais c'est bon, pour les Français, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini leur temps, là, les jeunes Toulousains.
Ils sont au milieu.
Ils vont peut-être tuer le game très rapidement.
Mais tu as des mecs à Béziers encore, des palmiers, tout ça, c'est 7-8 boucliers. Richard Rast, c'est 7-8 boucliers. Il y a un camion à 7-8 boucliers. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Califanon a 6 quand même, hein. C'est monstrueux. Hein.
Casalbou 7.
À une autre époque.
Casalbou 7, ouais.
7 Casalbou.
Ouais. 7 Casalbou, putain, ouais. Qu'il est sur
la route. Il y aura un 7.
Oui, je l'écoute. Casalbou, j'ai fait le final contre lui. Quoi.
Et ils l'ont fait.
Voilà, ils ont été champions de France devant Montpellier.
Et ils visent le 5e, hein. Ils assument, le Stade Toulouse. Hein.
Ah, ça sera le grand objectif de la saison. Et donc, Montpellier battu de peu. Montpellier peut-il avoir des regrets? C'est notre prochain débat dans 2 minutes sur RMC.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 15h30 et dans une demi-heure, on va débattre de Tony Parker. Est-ce que vous le voyez coachant NBA? Il y aurait eu le journal moyen avant
oui,
ça.
Oui, avec Stephen Brun qui va passer le bac français et qui va nous bluffer. Là, tout de suite, Pierrot, un débat, dans mes souveurs, c'est un débat qui était très chaud. Vincent s'est énervé.
Oui, s'est énervé.
Sur la finale de Top 14, il était énervé, Vincent.
C'est une dynastie 2023, 2024, 2025, 2026. Le Stade Toulousain bat Montpellier 28-20.
Salut Lenny.
Bonjour.
Lenny, comment vas-tu?
Aïe. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas un groupe à péter le boulard.
Ouais. Félicitations, mon grand.
Moi, je vois le trou, je m'y fous et puis je suis extérieur. Hein. Je veux dire, on va pas faire un autre. Hein.
D'accord, très bien.
Un moment exceptionnel du rugby français.
On va Lenny au téléphone là.
Non. Bonjour Julien.
Comme j'ai de droit.
Ah ouais, je me disais, drôle de lire. C'est qui au téléphone?
Je m'appelle Vincent Moscato, j'ai 26 ans, je suis cafetier et talonneur de l'équipe de Bec.
C'est pas Lenny.
Tu racontes à la débile, quoi. Moscato, il va te régler ça, le problème. Bon,
bravo, Suzanne. Les prods de Suzanne a podcasté, vous le savez, et c'est gratuit. Hein, sur rmc.fr.
J'ai 26 ans, je suis cafetier.
Cafetier,
mais c'était vrai?
Ah oui, c'était vrai, oui.
Je savais pas qu'il avait été cafetier.
crafter.
Tu sais, bah, cette génération.
Non, j'ai pas été crafter.
Toute une série d'emplois fictifs.
Je faisais la pub. Je faisais la pub pour mon bar, le pub Vincent, parce que j'avais un bar où j'ai gagné beaucoup d'argent d'ailleurs dedans. Et donc.
Mais c'est ce que là, j'étais en train de réfléchir. Je voyais Vincent avec le petit tablier en train de servir des cafés.
Un peu barista. Quand tu montes dans le TGV, tu vois, derrière le barista, c'était moi.
Il servait pas, Vincent, il se servait.
Ceci étant, qu'est-ce qui est le pire entre Vincent qui est cafetier et Serge Simon, très sérieux, qui est médecin?
Oui, je suis médecin.
L'été, quand première année de médecine, on te dit... Je suis mon médecin.
Bon, alors tout ça, c'est une époque ancienne, celle de Bègle, hein, de Bègle dans les années 90. Alors, nous, on parle de ce titre 2026, remporté par Toulouse dans la douleur. Montpellier a dominé la deuxième mi-temps, mais au final, Toulouse a toujours été devant. Donc, Montpellier peut-il vraiment avoir des regrets, Vincent? Tu règles le problème. Et bien sûr, on attend les supporters montpelliérains et toulousains au 32-16. D'abord, on va écouter le staff et les joueurs avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut messieurs, salut ça.
Alors les Montpellierains, apparemment, ils en ont des regrets.
Ouais, ils étaient touchés. Après la rencontre, il y a eu des larmes autour de la pelouse et de la frustration pour le manager Joan Codulo.
Déçu, frustré, dominé n'est pas gagné. On a l'occupation, la possession, on fait moins de fautes que l'adversaire et malheureusement, on n'est pas assez réaliste alors que c'était un de nos points forts sur la saison régulière. Je suis vraiment malheureux parce que je pensais vraiment qu'on allait gagner ce match.
L'entraîneur y croyait. Montpellier n'avait perdu que 3 matchs depuis le mois de novembre. Dans une de ses causeries diffusées sur Canal+, on le voit dire à ses joueurs que ce ne serait pas un exploit de gagner cette finale, qu'ils peuvent vraiment le faire. Et les Montpellierains ont dominé sur le match. 2 fois plus de courses, 8 défenseurs battus de plus. Les Toulousains ont dû plaquer 2 fois plus que les Montpellierains samedi soir. Le centre, Auguste Cadeau, a également des regrets.
Ça fait chier de passer à côté aujourd'hui. Parce qu'on avait largement la place, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Quand vous dites qu'on les regarde droit dans les yeux... J'ai envie de vous dire encore heureux parce que nous on y croyait. D'ailleurs, il n'y avait bien que notre groupe qui y croyait. Et on a prouvé qu'on pouvait rivaliser, mais c'est nul de pouvoir dire ça parce qu'on voulait montrer un peu à tout le monde qu'on était largement capable de gagner. Et aujourd'hui, on se bouffe les doigts, donc ça fait chier.
En revoyant le match, il y a 9 actions claires d'essais manquées par les Montpellierains, des mauls, des touches, des surnombres ratés à cause de fautes de main, de choix et de la très grosse défense toulousaine également. Mais le capitaine montpelliérain, Lenny Nouchi, retient le positif.
Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a 2 ans, on jouait un access match. Cette année, on échoue à 8 points face au grand Stade Toulousain. Donc, bien sûr qu'il y a de la frustration. Mais comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est surtout beaucoup de fierté d'avoir pu jouer avec ces mecs. On a regardé Toulouse soulever le bouclier. Ça fait mal. Maintenant, on a juste envie de montrer que le club de Montpellier grandit. Et c'est pas juste une saison au hasard qui tombe de nulle part. On est un club qui évolue depuis 2 ans vraiment correctement. Et on a envie de continuer comme ça.
Il faudra repartir au combat l'an prochain. Mais en attendant, Vincent, Montpellier risque de ressasser longtemps les occasions manquées et ce titre raté.
Alors, vous appelez le 32-16. Hein, il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont frustrés de l'arbitrage. Il y a aussi pas mal de Toulousains qui ne comprennent pas non plus que les Montpelliérains tiennent ce genre de discours, hein, comme si c'était presque facile, entre guillemets, en tout cas faisable, sur une finale qui n'a penché que dans un seul sens, Vincent, au final. Hein, puisqu'ils sont devant tout le temps. Ils mènent
dans un sens, non.
Ils ont toujours mené au score.
Non, mais je ne comprends pas que Toulouse puisse remettre en question qu'il y avait de la place pour Montpellier pour passer. Ils ont gagné très bien. Toulouse, c'est super. Et bravo, parce que ils ont 4 titres de champion de France. Mais quand tu gagnes, tu peux dire, c'est vrai qu'il y avait la place, Montpellier, ils avaient la place de passer. Les stats sont là. Maintenant, tu vois ce que je veux te dire? Il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu de stats. Maintenant, il y a des stats. Et je vais te citer le 4 Cotrin que vendange le deuxième ligne
Tyler
canadien.
Même le Tyler Dugis contre Rome.
J'ai jamais vu contre Toulouse une possibilité à 4 contre 1. Ouais. Je ne l'ai jamais vu pendant 20 ans. Donc là, il y a un 4 contre 1 criard. Il garde le ballon, il rentre dans la meule. Les ballons perdus sur les groupés pénétrants. La mêlée arbitrée, comme d'habitude, c'est pas sa faute à l'arbitre, ils y comprennent que dalle. Donc à partir de moi, je vais te dire, des fois je dis, quand tu vas sur la Lune, t'es pas obligé d'avoir été sur la Lune pour en parler, autant je dis, si t'as pas joué en première ligne, tu peux pas arbitrer. Ah, je te le dis sincèrement.
C'est plus compliqué la première ligne que
Amsterdam. Si t'as pas joué, tu le vois bien, Pierrot, si t'as pas joué en première ligne, tu peux pas jouer. C'est comme si, je pense que pour commenter du sumo, si t'en as pas fait, ça va être compliqué. C'est des trucs très mince, très, tu vois, que tu dois sentir en plus.
Après, les arbitres, ils ont un bagage quand même.
Très, très net. Et donc, l'arbitre, comme sur le droitier toulousain, il y a eu des fautes. Après, Toulouse, c'est les champions. Ils gagnent. Ils gagnent. Et bravo, Toulouse. Et encore une fois, bravo, Hugo Moulin. Mais en fait, même Hugo, il a eu quand même des craintes. Mais il y a les stats qui sont là. Ça veut dire que les stats te disent que, il y a 8 ou 9 fois, sur un groupé pénétrant, ils auraient pu passer. Et les ballons qui loupent en touche, dans ces zones-là, où ils marquent énormément Montpellier, là, ils n'ont pas marqué. Parce parce qu'ils ont fait des fautes. Il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. Contre Toulouse, t'as pas beaucoup d'occasions de passer. T'en as très peu. Là, t'en as eu quelques-unes. Bon, Bègle n'en a pas eu. L'an dernier, ils en ont eu. Ils sont arrivés à coller, puis après, il n'y en a plus. Bon, ça a été bonsoir. L'année d'avant, ils ont pris 70 points. Le Racing a pris 70 points. Ils n'en ont pas eu. Eux, ils meurent à 28. C'est bien. Mais quand tu vois, il ne faut pas qu'ils regardent le match au magnétoscope, parce que autrement, c'est
après, attention, il y a 19 points à la mi-temps. Hein. Qui revient de 19 points à la mi-temps en finale?
C'est ça,
hein,
c'est ça qui est fou.
Denis.
Ben, c'est justement. Ouais.
Écoute. Je pense que Montpellier avait trouvé la clé, Toulouse avait trouvé la clé en essayant de contrer Montpellier sur ses points forts. C'est là où ils les ont pris, en fait. Ils ont fait déjouer. Et le manque de maîtrise de Montpellier dans les moments clés, ça vient de là. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel combat, une telle férocité dans les rucks, un tel engagement physique. Moi, j'étais impressionné des tribunes samedi, ça tapait très fort. Mais du côté toulousain, ce qui est rare, enfin, à ce niveau-là, autant Montpellier, on n'est pas surpris, mais Toulouse, avait mis à fou Willis, même le petit Romain, ça cognait. Mais et je pense que Montpellier, il s'attendait pas à cette rivalité là, enfin cet ascendant là psychologique. Et après, oui, il y aura des regrets éternels quand tu prends un essai casquette en début de match. Tu peux pas te remettre. En fait, cet essai il change tout. Ça enclenche le.
C'est un essai casquette ou c'est bien joué?
Mais là, le talonneur, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Il n'y a pas eu un essai marqué dans le championnat depuis 25 ans. Si. Où il est le mec qui garde le fermé et le dernier défenseur?
Du coup, ça veut dire
le dernier défenseur, c'est
même.
Il part pas sur la fête. Ne passe le dernier défenseur. Il prend le porteur du ballon. On le sait. Le contraire, si tes derniers défenseurs t'occupent pas de la fête de passe, tu prends le porteur du ballon, le mec qui joue la fête de passe. Non, mais t'as vu ça où?
Non, mais je pense que les Montpellier-Lyriens, non, comme j'aurais jamais dit.
Les
mecs de
Montpellier, vas-y.
Non, là, j'y arrive pas.
Non, mais c'est facile, ça.
Non,
Montpellier-Lyriens. Non, j'arrive même pas à le dire. C'est affreux.
Non, mais là, c'est pas possible. Arrête,
tu m'emmerdes.
Comment t'as réussi? Il venait de le dire, Adrien, t'as qu'à répéter.
Il a dit, mais je suis Montpellier-Lyriens.
Montpellier-Rien.
C'est ouf.
Arrête.
Vraie dyslexie. Non,
oui, c'est
quelque chose.
C'est orthophoniste.
C'est les joueurs de Montpellier.
Les orthophonistes ne donnent plus de rendez-vous après un certain âge.
Non, mais c'est dur.
Quand on va amener Coco au vétérinaire pour le piquer, on va amener Denis aussi.
Pierrot, il a quand même dit c'est dur. Montpellier-Rien, c'est dur.
Non, mais c'est fou. Surtout qu'il a toujours pas réussi à le sortir.
Alors.
Non.
Vas-y, Denis.
Parce qu'on va parler rugby. Non, les joueurs de Montpellier, ils ont manqué de maîtrise, malheureusement pour eux. Et c'est en demi-finale, on avait vu déjà ça. Il y avait déjà, on se ressentit. Ils auraient pu très bien passer à la trapinette en demi-finale, alors qu'ils étaient devant le Stade Français, ils étaient plus forts. Et là, pareil, je crois que en fait, le poids de l'événement les a tués. Je pense que le manque de lucidité, ces moments de fébrilité au moment où il fallait scorer, eh bien, ils l'ont pas fait.
C'est ça qui manque. La différence entre une équipe qui en finale et qui a gagné, et une équipe qui ne va pas régulièrement en finale, mais même si Montpellier a gagné en 2022.
Je voulais finir sur ça, le vécu commun, tu ne peux pas le remplacer.
Bah oui.
La vérité, c'est que Toulouse, ils sont habitués à ces moments-là.
Quand tu vois Willis,
et puis, ils n'ont pas fait un bon match, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Et c'est là où ils sont des grands champions.
Oui, mais en faisant ce même match, ils auraient pu perdre, c'est ça qu'on explique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si ça tourne pas du bon côté, ça tourne pas.
Et ça gagne quand même. Oui. Donc
si ce match-là n'est pas une finale, voilà. Et c'est un match de la saison régulière. Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que finalement Montpellier aurait joué sa chance jusqu'au bout, et peut-être que Montpellier n'aurait pas commencé le match de cette manière-là si ça n'avait pas été une finale, mais juste un match de la saison régulière, parce que le début de match, ils sont hésitants, ils sont pris par l'événement.
Ils sont dans le match quand même.
Ils font des erreurs.
Mais
c'est la différence entre les très grands. Tu sais, quand tu dis t'es pas loin. Oui, mais enfin, si tu te fais breaker sur le premier jeu, tu cours après le score et t'as beau très bien servir après, si tu prends 3-0 au bout de 10 minutes, tu vas finir par dire 6-3 à la fin du premier set, et on a l'impression qu'on n'est pas très loin. Mais si, en fait, parce qu'en fait, tu te fais briquer au premier jeu.
Oui, mais c'est pas qu'une illusion. C'est pas qu'une illusion. Là, tu parles de, tu te dis, oui, mais il y a quand même une réopposition. Quand
mais il y a eu une opposition, mais l'opposition face à Toulouse, il faut que tu la sois, il faut que tu puisses la voir de la première à la 80e minute et à la fin. Il y a eu des petites, il y a eu quand même des hésitations et tu vois la différence de Toulouse qui, lui, quand ils doivent mettre le jeu au pied ou ils doivent être très précis en défense, comme par hasard. Toulouse, ils sont nickel, mais parce que ils ont cette culture de la gagne, cette expérience, c'est ça la différence. Ils sont plus sereins à la fin, on est bien d'accord.
Mais je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait pour jouer Montpellier. C'est là où ils sont très forts.
C'est que même en jouant pas bien, t'es capable de jouer juste.
Mais Montpellier est encore donc très loin, en fait, du coup, parce que...
C'est pour ça que les regrets...
nous parle des stats, je veux bien.
Dans la maîtrise, ils sont loin.
La première des stats en rugby, c'est le score. Quand t'es mené à la mi-temps 25-6, t'as beau me parler de toutes les stats que tu veux, ta finale, elle est perdue 90% du temps. Ouais. Et on a eu l'impression, parce que s'ils le font, c'est un exploit historique, hein, Montpellier, de revenir face au Stade Toulousain de 25-6. Bon, à la mi-temps, on s'est changé des messages, on était plutôt d'accord pour dire qu'ils pouvaient en prendre 50. On est d'accord,
Denis, oui, Vincent. Bien sûr, on l'avait
donc
peur,
en fait, au final, ils sont peut-être encore très loin du coup. Parce que s'il n'y a pas cette première période de Toulouse, ils ne vont peut-être pas tenir comme ça jusqu'à la fin.
Le score est trompeur. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a des regrets pour Montpellier ? Les regrets sont réels ? Mais en fait, ils doivent être mesurés parce que quand tu vois que Toulouse, au final,
on ne peut pas y répondre, même les joueurs.
Non, c'est-à-dire si jamais ils le perdent, on dit est-ce que Toulouse a des regrets, évidemment.
Toulouse, ils sont capables
de 10 fois mieux que
sur les statistiques, pour revenir sur ce que dit Adrien, toutes les statistiques sont en faveur de Montpellier. Et si tu n'as pas regardé le match et que tu regardes la ligne de score, c'est tout pour Montpellier.
Ça ne vaut pas quand tu scores.
Mais les grands, jouant pas bien. Les grands savent gagner quand tu joues pas bien.
Non, les grands défendent du bol parce qu'ils ont l'habitude de la finale et ils ont du coup de chance.
Les statistiques sont flagrantes, arrêtez de dire toujours les mêmes trucs.
Oui, mais parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils sont champions.
Ça veut dire que de ton point de vue, Toulouse a eu un peu de chance à la fin.
Non, mais bien sûr qu'ils ont de la chance, c'est bien entendu qu'ils ont de la chance. Okay. Quand ils loupent, bien entendu qu'il y a eu des arbitrages quand même sur le groupe pénétrant, il dit que le mec il passe devant. Comment tu le siffles ça? Ils sont dans l'embut. C'est vraiment bravo le Stade Toulousain et c'est eux qui ont la meilleure équipe. Mais sur ce match, ils peuvent passer à la trappe.
Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu te dis que Montpellier va faire basculer le match
Bien sûr, à la fin,
il y a 8 points, il faut marquer deux fois, ils ont un peu plus de 10 minutes.
Non, ils sont en deuxième, ils ont 18 minutes quand Léo Colli marque.
Ouais. Ils sont pressés par le temps et je trouve que ça se ressent, moi. Il n'y a pas un moment, pas du tout. Il y a une pénale touche, ils peuvent revenir à 28-27 à 10 minutes de la fin.
Dans les zones là où ils jouent mal, attention, ils jouent très très mal dans les zones décisives. Écoute-moi, revois le match, regarde la tête d'Hugo quand il se lève, il est au bord. La panique, comme jamais il a eu panique, là, je te le jure. Il s'est dit, on passe à la trapinette, ils ont plus un ballon, les autres.
On va donner arrêtons de dire,
il y avait une possibilité pour Montpellier, peut-être de le faire. Le champion a gagné. Le Stade Toulousain le meilleur, c'est sûr. Mais sur ce match-là, précisément, si tu fais 5 matchs, peut-être que le Stade Toulousain va gagner 4 fois. Mais sur ce match, précisément,
un texto d'un ami qui nous écoute, il craque Vincent 25-6 à la mi-temps, il rigole. Olivier Romain.
Ah ben oui, Vincent. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le seul moment.
La première période,
peut-être. Ça a pu basculer dans les dix dernières minutes.
On essaie de. Je te dis que le stade, il est bien. C'est la réalité du 25-6. OK. Et à la fin, la réalité, c'est qu'ils reviennent à 15 minutes de la fin, à 20, à 28. Faut arrêter.
Je suis pas d'accord.
Olivier Roumat peut te dire aussi, comme c'est un spécialiste de la mêlée, que le droitier de chez eux s'effondre tout le temps, qu'il n'est pas sifflé. Il a arrêté d'arbitrer les mêlées. Il me semble que je te l'ai entendu dire, Denis.
Je suis d'accord, tu l'as dit en commentaire.
Qu'il a arrêté. Non, tu ne le dis pas. Il a de la tête. T'es là, t'es mieux. Pas du tout, j'assume.
Parce que la mêlée, je ne suis pas un grand connaisseur de la mêlée, mais il me semble qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage.
Alors, justement,
ils arrêtent d'arbitrer la mêlée.
Ils ne sont pas d'accord avec ça. Valentin au 32-16. Bonjour, Valentin.
Oui, bonjour.
Alors,
alors j'en pense que moi c'est un petit coup de gueule là, ça fait 4 ans que le Stade Toulousain gagne grâce à l'arbitre en finale de top 14, tous les ans c'est la même chose.
L'année dernière, alors, il me semble pas qu'on est qui l'an dernier, Valentin.
Le Stade Toulousain gagne, il y a 3 ans c'est pareil, et là cette année c'est la même chose.
Il me semble pas qu'on l'ait dit l'an dernier alors que c'était une finale très serrée.
Quand ils sont champions, ils sont champions. Il faut arrêter de tout remettre sur l'arbitrage à chaque fois.
En première mi-temps,
Montpellier. Écoutez Valentin,
pourquoi ils prennent pas les points? Ils ont voulu faire les mecs.
Ils peuvent scorer plusieurs fois, tu as raison.
Quand t'es en finale, tu prends les points. Tu sais que t'as à faire une grosse équipe.
Mais ça, c'est pas vrai. N'écoute pas. Ça, c'est comme les mecs qui te disent qu'ils coupent partout dans la vie. Dès qu'il y a un courant qui court, comme ça, tout le monde le suit. En disant, ayez un peu de personnalité, de reconnaître les choses. Les points, je les aurais pas pris, moi.
C'est vrai.
Et personne ne les aurait pris. Alors, quand c'est fini, les mecs, il fallait prendre les points. Mais non, il fallait pas les prendre parce que si un pénal touche, le lancer, il est bon. Il passe devant, voilà. Donc non. Mais vous déconnez. Vous êtes toujours dans le climat favorable qu'il faut dire.
Voilà. Quand ça marche pas, il faut arrêter. Faut changer de stratégie. Hein.
Mais non, mais
faut jouer à la main.
Valentin, il y a les stats. On te dit la Tève. Redonne-nous les stats.
La possession, c'est Montpellier qui l'a, le nombre de pénalités. Bah,
pas que la possession.
La possession, les défenseurs battus, les franchissements, tout est pour Montpellier.
À ce jeu-là, c'est pour ça que je te dis bravo le Stade Toulousain et Bruce Willis. Merci à Bruce Willis, à Jack Willis d'avoir récupéré tous ses ballons parce qu'il avait fait un match énorme. Le fils de la Roume a fait un match énorme et la troisième ligne a fait un match énorme. Mais tu te trompes pas, s'il n'y a pas Willis à machin, le score n'est pas le même. Il les a battus presque. Comment lui tout seul, Willis. Il a fait un match extraordinaire. Après, de dire il a fallu prendre les points, mais c'est des conneries, ça fait 5 ans que je les écoute.
Mais pourquoi il faut pas les prendre,
la sensation. Mais quand t'es Montpellier, que toute la saison, t'étais le plus performant dans les 22 mètres adverses de tout le championnat, et bien tu prends pas les points, tu vas en touche. Et bien là, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le Stade Toulousain devant et parce qu'on n'a pas réussi à scorer.
Voilà. Merci à Valentin ainsi qu'à Hervé, à tous les appels au 32-16. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde, évidemment, mais c'était un débat enflammé dans un instant.
Et puis on a le droit de parler de l'arbitrage, Pierrot. Il faut arrêter de dire qu'on est contre le Toulouse parce que l'arbitre a été mauvais.
Oui, je comprends, ça y est, je comprends mieux pourquoi il s'est un peu énervé. C'était un très bon débat, on a parlé rugby et ça fait du bien.
Puis il s'est énervé parce que c'est aussi l'équipe de Bernard Laporte.
Hein. Évidemment,
je pense pas qu'il aurait mis autant de passion si c'était le Castres Olympique à la place de Montpellier. Tout de suite, le journal moyen première édition, je vais vous faire passer le bac. Et ce jour-là, le jour où je vous ai présenté l'épreuve de français, Stephen Brun est sorti du bois et nous a bluffé.
Allez, c'est tout de suite pour le bac français de Steph.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 15h45, c'est l'heure du journal moyen, première édition sur RMC.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, la folie des stars hier au Madison Square Garden. Patrick Mahomes, le champion de NFL, a été augmenté, Vincent. Et puis, je vais vous faire passer le bac français. Alors, Stephen, je sais que pour toi, le bac, c'est un traumatisme, tu t'es pas présenté.
Oui, comment ?
Forfait. No show au bac.
Le français aussi.
Et le français, c'est nos choses aussi sur le français. Non, il parle bien français, Stephen. Vous écoutez RMC, c'est le 2697e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
C'était du délire hier. On a parlé du délire à New York avec Nicolas Jamain. À 15h, la remontada des Knicks face aux Spurs de San Antonio au Madison Square Garden. Le Madison, plus que jamais, Vincent, c'était The Place to Be hier. La liste des stars présentes est impressionnante. On n'a jamais vu ça, franchement. Taylor Swift, oui, Madame Swift était là. Elle était contente. Jerry Seinfeld, Chris Rock, Adam Sandler, Spike Lee, Ben Stiller. Le plus chaud, peut-être. Le plus chaud. Oui, il est né. Il n'est pas né à Saint-Etienne, mais il est supporter des Verts également. Timothée Chalamet, qui n'en peut plus écouter à la fin du match.
Come on, the Knicks, baby.
Il est avec sa compagne, il a quelques plus du tout. C'est un vrai supporter de Knicks. Et ensuite, dans la salle, dans une salle avec des supporters, Timothée Chalamet et Ben Stiller mettent le feu. qui est bien, c'est qu'il y a des fans, hein, ils sont pas contre people, ils communient avec
le
public des Knicks. Il y avait Jimmy Fallon, il y avait Whoopi Goldberg, il y avait Michael J. Fox, il y avait Christine Taylor, c'est de la folie.
Ça devient Roland Garros, c'est la grande époque.
Là, c'est incroyable, ils sont à fond, ils sont pas passifs, ils sont quand même assez hystériques.
Il y a des greffes quand même.
John McEnroe également. Après, en vérifiant, certains, la plupart sont là toute l'année.
C'est des historiques.
Mais Timothée Chalamet, il publie à chaque fois des publications sur Instagram. Il
est
écoutez, même la joie. Alors
et Jack Nicholson.
Il n'était pas au Madison, la joie des supporters, pas des joueurs de la sélection américaine de foot, les États-Unis. Ils sont dans leur camp de base, dans leur hôtel, ils sont pas au Madison, ils préparent la Coupe du Monde chez eux. Le sélectionneur, c'est Pochettino. Ils sont tous devant leur écran géant, à leur camp de base, au moment de moment décisif. Et je crois, Stephen, c'est populaire comme franchise. Hein. Ils sont quasiment tous pour New York, c'est de la folie. Balle de match. Toute la sélection américaine de foot, Vincent, célèbre la victoire des Knicks. Il n'y a pas un qui est pour Wembanyama et les Spurs.
Merde.
Ça fait mal quand même.
C'est
pour ça qu'il y a
New York, c'est quand même autre chose.
Si t'es pas né au Texas, comment tu supportes San Antonio?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Texan dans l'équipe américaine.
Il n'y avait pas Bob. Comme si tu es un Rhodes, quoi. Tu vois, tu supportes Rhodes. Mais si t'es pas né à Rhodes, t'as du mal. Mais les Spurs, c'est Rhodes.
C'est comme la JO Serre, un peu.
Ouais, voilà.
Mais tu préfères habiter où, toi? Si t'as choisi Rhodes ou San Antonio?
Rhodes ou Albi?
C'est parce que Saint Antonio c'est bien pourri, pareil. Attention.
Il y a un mol, il y a un joli mol.
Ah ouais,
il y a un
Guimont River Walk.
Il y a pas de Niro, Robert.
Il a encore dit Saint Antonio.
Saint Antonio, oui. Mais parce que tu sais qu'à l'époque à Saint Antonio, tu sais qui c'est qui jouait pivot?
Non.
Berrurier.
Cherchera.
Cherchera Berrurier.
Ah, mais c'était pas des bouquins aussi, des romans, Saint Antonio.
Saint Antonio.
Berrurier,
tu peux
Berrurier.
Non, pas plus que ça, non.
Port et argent.
Un peu cochon, oui.
Port et argent, foot US.
Yeah. Hello and thank you for listening to Moscato Show.
On parle toujours gros sous. On est toujours aux États-Unis. Les Kansas City Chiefs ont. Alors j'adore le terme employé par les médias américains. Ils ont, je cite entre guillemets, restructuré le contrat de la star Patrick Mahomes. Alors deux saisons supplémentaires jusqu'en 2033, Vincent. Avec en plus, du coup, la restructuration, c'est une augmentation du salaire annuel. Donc sur 2026-2033, c'est un record en NFL pour le foot américain, il devrait toucher en tout 504,75 millions de dollars. Entre 2026 et 2023, il a atteint sur ce contrat le demi-milliard de dollars. Il a 30 ans, c'est un record en NFL. Bravo monsieur Baro Patoche, Patrick Mahomes.
Bravo. Voilà, super Patoche. Écoute-moi, en plus, il va jouer jusqu'à 37-38 ans.
À ce poste-là, tu peux durer.
Tu passes là, tu
dures. Brady, il a 40 ans.
Tu mords quand même. Il a l'air costaud. Il va être milliardaire. Il va être milliardaire.
Plus les contrats. Il n'y a pas les contrats.
Ah, ça, c'est uniquement le salaire. Hein.
C'est le salaire.
Les contrats, parce que lui, les contrats, c'est un mec qui est populaire. Sur les beefsteak, sur les.
Le barbecue.
Le barbecue.
Les barbecue
Vaubert. Les ouais, tout là. Les Weber. Tu vomis sur le barbecue.
Un demi-milliard sur ce contrat. Bravo, monsieur
Mahomes. On sentait qu'il avait besoin d'être restructuré, il a défrayé. Ouais. T'as vu chez lui, terrain de basket inside, ouais, à l'intérieur,
salle de piscine, de muscu et tout.
Ça, c'est beau là, moi j'aurais dû.
C'est un rêve ça.
Ouais. Sans transition.
Terrain de basket, peut-être pas quand même. Non, mais.
Faire un rugby.
Non plus.
C'est un traumatisme pour Stephen. Désolé d'aborder ce sujet. Ce matin, ils étaient 500 000 à avoir un peu la boule au ventre. C'est le début du bac pour les élèves de première. Les épreuves anticipées, 4 heures d'épreuve. Bac français, jingle, grosse librairie.
Ouais.
Dans ce livre, aux allures de fable moderne, qui est un hymne à la liberté.
Ça se passe dans une centrale électrique à une époque, je pense, plutôt vers le 19e siècle.
L'histoire de quatre enfants, trois frères et une sœur dans une vallée perdue.
Très passionnant, mais un peu dur sur la société des livres sociétales. Buveur de vin, Frank Bouys chez Albin Michel. C'est un drôle de mec, ça, Albin.
Ouais, c'est un drôle de mec, ça. Quelle bouillie. Alors, les élèves de première, Vincent, ont dû choisir de commenter un texte ou de rédiger une dissertation. Tu as le choix quand tu es en filière générale. Donc, ça rappelle des souvenirs, hein, parfois, quand tu vois les intitulés.
Je vous rassure, ok.
Alors, Vincent, c'est basé sur des œuvres qu'ils ont lues, mais après. Après,
bien sûr,
tu apprends ta leçon, mais il faut quand même avoir l'esprit un peu structuré aussi. Savoir, puis il faut savoir développer une dissertation quoi, en plusieurs points. Donc je vous donne les sujets de dissertation. C'est le thème général, c'était la poésie du 19e au 21e siècle.
Oui. Affreux.
Affreux. Affreux.
Ah ouais, déjà, le thème, il est dur. Hein.
Par exemple, alors Francis Ponge, l'œuvre La rage de l'expression.
Du ping-pong.
Voilà, donc. Donc tu as lu La Rage de l'Expression. Tu l'as lu, d'accord. Tu arrives pour la dissertation, tu choisis la dissertation, et donc voilà la consigne. Selon un critique, Francis Ponge est un mécanicien qui cherche à réparer, articuler, faire fonctionner. Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de La Rage de l'Expression? Et là, t'as 16 ans, t'as 16 barreaux, et tu t'as pris ta leçon.
T'as pas bossé dans l'année.
Ah, si t'as pas bossé, t'es mort.
Tu passes.
Tu écris pas une ligne.
Tu prends l'autre option.
T'as va faire un test.
Deuxième option.
Alors.
Si, parce qu'il y a les embrouilleurs. Les embrouilleurs qui n'ont pas bossé, mais qui essayent de faire des machettes, des trucs.
Sans aucune connaissance,
oui, c'est dur.
Tu l'as pas lu, t'es mort. Arthur Rimbaud, cahier de Douai. Bah, Désiré Douai,
Arthur Rimbaud, quand tu lis trois phrases, t'as le bouquin qui te tombe des mains.
Et moi, j'adore. C'est très court, la consigne de la dissertation. Dans le cahier de Douai, est-ce seulement par la révolte que Rimbaud s'émancipe?
Ça, normalement,
vous avez bien bossé dans l'année.
Ça, c'est plus clair.
On fait un test.
Ça, c'est beaucoup plus clair.
C'est terrible. Stephen Brun, tu es devant ta feuille 4. Bah, je sais pas. T'as 4 heures.
J'ai 4 heures.
Ouais.
Alors, écoute, la réponse est non. Alors, certes, la révolte a fait partie de la vie d'Arthur Rimbaud parce que c'était une révolte contre tout ce qui était oppression. Il supportait pas le Second Empire. Il supportait pas les guerres. L'oppression familiale aussi parce qu'il quitte Charleville, sa ville de naissance, parce que sa mère est très, très, très oppressante. Ouais. Mais l'émancipation aussi, il y a une émancipation psychologique. Parce que beaucoup de pérégrinations, il visite le monde entier, beaucoup de villes. Il se réfugie dans la poésie aussi. Une poésie qui, il démarre à écrire en prose. Seul Baudelaire écrivait en prose à l'époque. Il a envie de copier Charles Baudelaire. Donc l'émancipation, c'est la révolte. Oui, mais pas que, je dirais.
Tu vas nous prendre pour l'école.
Oui, tu vas nous prendre pour l'école.
Ouais, si t'avais bossé, au lieu de faire un
au mieux, tu aurais dû y aller là, aujourd'hui, tu l'as vu ton bac.
Alors là, franchement, bravo Stephen, 18 sur 20. Belle performance, parce qu'aucune note devant les yeux. Tu as fermé l'ordinateur, t'as pas de feuilles devant les yeux.
Tu l'as bien appris,
oui. Comme dit Pierrot, si t'avais travaillé.
Tu vois, mais si t'avais travaillé, tu l'aurais rendu là, même. T'as très bossé.
Je remercie Adrien qui m'a appelé à 14h, j'ai lu le bouquin.
Mais par contre, tu sais quoi? C'était passionnant.
Rimbaud énorme à 3 points, Steve.
Ouais.
Sinon, il y avait, tu la connais peut-être, Pierrot, c'est peut-être une cousine, Hélène Dorion. C'est pas Dorian, mais Dorion. C'était dans les corridors du temps, 1988.
Non, mais là, franchement, il faut bosser. Hein.
Ben oui, il faut bosser. Bon. Il nous a bien eu, Steve.
Oui, mais alors, comme quoi, il suffit de bosser. Oui. Il a les capacités. Hein,
il était convaincant.
Hein.
C'était pas mal. Hein. Dans un instant, après les infos, Pierrot a parlé de quelqu'un que tu connais très bien. Tu as travaillé avec lui sur RMC, Tony Parker.
Tony, coach en NBA. Est-ce que vous y croyez à tout de suite?
RMC jusqu'à 18h,
le meilleur du Super Moscato Show.